Aujourd'hui, Radio Royan Vercors est sur le plateau du Vercors et du côté de Lens en Vercors en particulier. On se trouve dans la maison du parc naturel du Vercors et on va discuter d'un bien commun qui fait partie du patrimoine local. Un bien commun que beaucoup de randonneurs, de randonneuses du Vercors connaissent. On va discuter des abris non gardés, des cabanes non gardées qui sont présentes un peu partout sur le territoire et qui sont héritées d'une longue histoire, d'un patrimoine. Et pour en discuter, on est en compagnie d'Emmanuel Bosque. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que vous faites au parc? Quel est votre poste?
Alors, c'est un poste, je travaille au sein du service tourisme du parc et d'une manière générale sur toutes les questions de diversification touristique ou transition, on peut mettre le mot qu'on veut. Voilà, et simplement, voilà, on a des contextes qui changent, il y a le changement climatique, il y a donc, ce qu'on appelle la crise climatique, mais il n'y a pas que ça, il y a des crises énergétiques, sanitaires, sociales. Et tout ça, ça redéfinit un petit peu l'usage du temps libre des gens, un autre rapport à leur travail aussi, et ça a un impact sur le tourisme. Et l'idée, c'est comment voilà, tout ce que le Vercors a construit en termes de tourisme qui correspond à certaines époques ben, va pouvoir prendre ce virage-là aussi. Et l'idée, c'est d'accompagner ça, de l'expérimenter avec des communes, des socioprofessionnels.
Et donc, dans le cadre de vos fonctions, vous avez un temps qui est dédié donc à la question des cabanes et des abris, puisque effectivement, ça, c'est un espace que les touristes viennent fréquenter, mais aussi beaucoup de locaux viennent fréquenter. Et avant de rentrer donc dans le projet cabane que porte le parc naturel aujourd'hui, moi, j'avais un peu envie de revenir en arrière et que vous nous racontiez un peu c'est quoi l'histoire de ces cabanes qui se trouvent sur le plateau du Vercors, d'où elles viennent, à qui elles appartiennent peut-être. On les connaît bien, mais on ne connaît pas forcément leurs histoires.
Oui, alors pour certaines, ce sont des histoires qui remontent à loin. Je pense au XIXe siècle, notamment quand le service des restaurations des terrains de montagne mis en place par l'État pour réfléchir un petit peu à la protection de la montagne dans le sens où comment on peut reforester, comment on peut endiguer des torrents qui ont tendance à partir ou des avalanches qui font beaucoup de dégâts. Donc il fallait envoyer des équipes qui expérimentaient des manières de tenir la montagne. Donc il fallait refaire des chemins, il fallait trouver des moyens de canaliser des torrents, il fallait faire des murs de soutien. Et pour ces travaux en montagne qui prenaient du temps, il fallait loger des personnes. Donc on a construit des cabanes. Et sur le balcon est du Vercors, par exemple, il y a beaucoup de cabanes et de vestiges de travaux du RTM qui restent. Je pense à la cabane des Clos, la cabane de la Pérouse initialement, et aussi au pied de l'Aubiou, par exemple, on en a beaucoup. Et les cabanes, c'était aussi des lieux pastoraux, des lieux agricoles, parce qu'il y a une agriculture de montagne. Je pense à Côte-Chèvre, notamment sur la commune de Châtillon-d'Yvoix ou de Trèche-Nucrayé, où là, depuis, pareil, fin du XIXe siècle, on observe des bâtiments qui servent à partir en pâturage, en activité pastorale, ou alors même aller cultiver de la lavande de montagne dans les années 50, 60, 70. Et pareil, il fallait des appentis, des endroits pour se poser, pour manger, pour s'abriter, pour poser les outils. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Et également, le travaux forestiers, le Vercors est un massif éminemment forestier. Les charbonniers ont besoin de travailler, les bûcherons également, et on a assisté à ces cabanes. Elles peuvent être donc des propriétés de l'État, des propriétés communales, des propriétés privées. Même le parc aussi s'est mis à construire des cabanes, par exemple, sur des endroits de la réserve naturelle des Hauts-Plateaux, parce que l'itinérance, la randonnée, à un moment, s'est développée. Parce que la réserve naturelle aussi a besoin d'endroits où se poser pour faire les études scientifiques. Et voilà, donc on a en fait une multitude d'histoires qui se croisent, des temps différents, des temporalités différentes, des fonctions différentes.
Et justement, l'usage de ces cabanes, on se rend compte qu'il évolue dans le temps et qu'il évolue à travers l'histoire. Là, vous parliez beaucoup pour ces cabanes qui sont nées au 19e, fin 19e, d'activités de travail agricole ou travail forestier. Il y avait un usage professionnel de ces cabanes. Petit à petit, on va vers le loisir, on va vers la randonnée, l'alpinisme. Et à travers cette histoire, il y a évidemment eu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau du Vercors. Et est-ce que ces cabanes ont eu un rôle dans cette histoire-là ?
Complètement. Elles ont joué un rôle vraiment fort. C'était des lieux pour cachés. C'était des lieux de cache, voilà, où on permettait à des personnes de disparaître des regards, on va dire, et de se préparer en attendant, voilà, d'éventuelles offensives. Donc beaucoup de cabanes ont servi, ce soit dans, au nord, au sud. Enfin, je pense la totalité du Vercors, des cabanes du Vercors, à un moment, ont été des repères pour protéger et cacher des résistants, ou en tout cas des personnes qui voulaient se soustraire au travail obligatoire, par exemple. Certaines cabanes, même, je pense, à Sornin, sur le plateau de la Molière, du Sornin, la cabane notamment de Plénouze, qui aussi était une cabane pour les résistants où on apprenait à combattre. C'était dans la deuxième version des cabanes de la résistance. Donc on voit qu'elles ont été un point d'appui extrêmement important pour cette période, voilà, qui n'est pas si loin malgré tout. Il se trouve que certaines de ces cabanes de la résistance, malheureusement, ont disparu. Enfin voilà, ont disparu, ont vécu leur belle mort, se retrouvant en ruine, mais c'est aussi l'histoire des cabanes. Il y en a certaines qui restent, d'autres qui ont vécu ce qu'elles avaient à vivre. Je sais que là, certaines associations les remettent en œuvre. Je pense notamment à Autran, à l'association Cabane 44, qui a remonté la cabane des Carteaux sur le plateau de Gèves, par exemple, et qui aimerait bien redonner vie à la cabane de Plénouze, notamment sur le plateau de Sornin-la-Molière. Voilà, donc l'histoire des cabanes recommence. C'est ça qui est intéressant, et en tout cas, on voit bien que les histoires qui s'y sont passées, elles laissent personne indifférent.
Et justement, donc c'est un patrimoine local, un patrimoine qui est culturel, un patrimoine qui est historique, et c'est aussi un patrimoine bâti, puisque si on parle de ces cabanes qui datent de la fin du 19e, elles présentent toutes des matériaux, une manière de construire peut-être différente, qui évolue dans le temps, peut-être qui se dégrade, et c'est là où vous intervenez notamment pour accompagner des projets de restauration de cabanes.
Oui, il y a des cabanes plus récentes aussi. Alors je pense dans la forêt des Coulmes, notamment la cabane de Serre du Sâtre, qui a été un exemple. Il se trouve que c'est le parc du Vercors qui l'a construite. Le parc était jeune, hein, le parc est né en 70, et la cabane, elle a dû être construite en 75, parce qu'il y avait déjà à l'époque une pratique de la randonnée, de l'espace naturel, de se déplacer. Et l'idée était de se dire, c'est peut-être bien, voilà, qu'il y a un endroit où se poser. Et le parc, à cette époque-là, construit une cabane. C'est marrant, donc c'était un usage touristique. C'était une cabane dans un usage touristique, ou plutôt de fonction d'usage de la randonnée, donc des activités de pleine nature. Donc c'est, voilà, pour dire aussi qu'on a des cabanes très récentes, finalement, et d'autres beaucoup plus vieilles. Et effectivement, les projets qu'on lance maintenant depuis 2019, c'est de réfléchir avec les communes qui le veulent bien, avec l'ONF très souvent qui est partie prenante, avec des associations locales. On a des habitants, des élus qui se posent des questions sur le devenir de ce patrimoine, et on les accompagne dans la réflexion de dire ces lieux, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Alors évidemment, il y a assurer la pérennité de ce patrimoine, c'est-à-dire comment on répare un toit, comment la structure du bâtiment, des murs, si elle s'est affaiblie, comment on retravaille dessus, comment on requalifie l'intérieur pour que, voilà, sans devenir un refuge, on va dire au sens 3 étoiles, mais on garde à l'esprit un petit peu le côté simple et sobre et frugal que les habitants du Vercors ont toujours eu, et comment ces cabanes, elles révèlent aussi ça. Mais voilà, comment à l'intérieur, on recrée du confort à minima, dans une grande simplicité, et que cela, voilà, c'est des héritages qu'on a, et qu'on le reprenne en main, que ça repart pour 20, 30, 40 ans, et que ceux qui viendront après, ils continuent le travail également. Donc on a un devoir de transmettre autant que faire se peut ce patrimoine, et on fait ça en étant accompagné par un architecte, voilà, qui nous permet aussi d'éclairer les idées, la réflexion, de donner des approches également, en donnant toujours la part de décision aux communes, aux acteurs locaux. C'est simplement de les aider dans leur réflexion sur les matériaux à choisir, si on doit refaire une couverture de toit, tôle ondulée, tôle bac ou autre chose. Voilà. Et en fait, on se rend compte que sur des choix techniques comme ça, il y a souvent beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges entre les élus, les habitants, des artisans qui sont là, qui donnent leur avis, qui ont une perception un petit peu de ces matériaux, de comment la cabane va s'intégrer ou pas dans le paysage, parce que c'est une chose de rénover une cabane, mais c'est aussi une chose qu'elle s'intègre parfaitement dans le lieu où elle est. Donc voilà, ces questions, choix de matériaux, comment on fait, sont très importants.
Et vous parliez juste avant de la question des valeurs et de cette culture commune, de cet attachement qu'on a à ces cabanes et à leur histoire finalement. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu plus comment se sont construites ces valeurs, qu'est-ce qu'on vient y chercher dans ces cabanes et comment est-ce qu'on les préserve, vous, en tant que collectivité, en tant que parc naturel. Vous êtes une institution et comment est-ce que tout ça, cette notion de bien commun, comment est-ce que vous l'articulez, parce que le bien commun induit un soin collectif aussi au lieu. Comment est-ce qu'on continue à faire culture commune autour de ça et comment est-ce que vous, en tant qu'institution, vous l'intégrez, quoi ?
C'est vrai, alors c'est une question qui est importante. Hein. Ce qui est important, une cabane non gardée, c'est un lieu accessible à quiconque tout le temps. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on est dans une société d'une manière générale qui a tendance à cloisonner les choses ou alors il faut payer pour accéder à un endroit. Ici, dans le Vercors, on a cette richesse-là de pousser une porte, de s'abriter sans avoir demandé à l'autorisation, aller chercher une clé à un endroit, voire de donner de l'argent. Donc cette valeur-là, c'est une forme de solidarité montagnarde déjà, et puis c'est une manière aussi, comme vous dites, de construire du commun. Et alors, ce qui est assez beau là-dedans, c'est qu'en fait, chacune de ces cabanes non gardées, elle est toujours propriété de quelqu'un. De l'État ou de l'ONF, par exemple, d'une commune ou d'un propriétaire privé. Et ce qui est assez formidable, c'est que chacun de ces propriétaires dit « Cette cabane, je l'offre sans condition à l'ensemble des gens qui veulent bien rentrer dedans. » Donc, c'est même pas une question de gratuité, c'est une notion d'offrir quelque chose. Et ça, ça nous oblige tous. Ça nous oblige tous parce que ça crée quelque chose dont on doit tous être responsables. Ça devient un bien commun. Même s'il y a un propriétaire, ça devient un bien commun. Et c'est dans ce sens-là où on pense que de remettre ce patrimoine, aider ce patrimoine à mieux vivre, à avoir un meilleur aspect, ça sera aussi une manière, déjà de le faire perdurer dans le temps, de faire perdurer cette manière de pousser une porte et de pouvoir s'abriter. Et de faire cette valeur-là, de la faire durer dans le temps et que ce soit à nous, aux habitants, aux élus, aux visiteurs de passage qui viennent là, de se dire c'est à moi d'être acteur de ça plutôt que consommateur des lieux. Voilà, c'est pas de la gratuité en fait, c'est bien plus que ça. C'est à moi de devenir acteur de ces cabanes et pas un simple consommateur. Voilà. Donc comment chacun, à notre petit niveau, lorsqu'on traverse un de ces lieux, on va monter un peu de journal pour le poêle, je vais vider le poêle, ou je vois des saletés de mon fait, je redescends un petit sac poubelle, peut-être que quelqu'un n'a pas pu le faire ou autre, mais d'être toujours en mouvement pour que cette valeur, elle perdure. Voilà.
Et ça, c'est quelque chose, vous constatez que cette valeur, elle a toujours été présente et elle l'est toujours, ou alors c'est quelque chose qu'il faut se transmettre, c'est quelque chose qu'il faut apprendre?
Alors, j'ai pas assez d'antériorité de passer sur le Vercors pour le dire, mais en tout cas, ce que j'observe, c'est qu'il y a un changement, une évolution des personnes qui viennent en montagne. On a des gens qui viennent parce qu'ils trouvent ça beau. C'est important, c'est vrai que le Vercors est beau et ça fait du bien lorsqu'on on habite en ville et qu'on est soumis, on sait qu'on est à un moment de notre société, de la vie de la France où c'est un petit peu difficile économiquement, de se retrouver en voiture, au travail, on a besoin d'avoir des espaces pour respirer. Et c'est assez naturellement qu'on vient par exemple dans le Vercors, on va en Chartreuse, en Belledonne, en Matésine également, et ce qu'on remarque, c'est que la crise sanitaire, la question des confinements, des déconfinements, en tout cas les confinements, ils ont accéléré une prise de conscience, on dirait, au sein de la société française, qu'on a ce besoin d'hypernaturalité, en tout cas de toucher, de voir un espace naturel qui est beau. Et on a vu après la crise sanitaire que de nouvelles personnes arrivent en montagne. Alors il se trouve qu'elles n'ont pas les codes, elles n'ont pas le mode d'emploi. Et donc on a une responsabilité partagée. C'est à nous, Massif du Vercors, à donner, à expliquer le mode d'emploi, que ce soit lorsque je marche avec un chien ou sans chien, voilà, lorsqu'il y a des troupeaux, qu'est-ce qu'on fait? Quand je rentre dans une cabane, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il y a une évolution des pratiquants de la montagne qui s'est faite. Avant, on avait des gens qui avaient une culture montagne assez marquée. Je veux dire, voilà, donc ils savaient ce qu'il fallait faire. Et là, donc, on a d'autres personnes qui arrivent sans ces réflexes-là. Donc, je serais tenté. Alors, on peut dire, où c'est pas bien. Effectivement, on assiste à des comportements, mais qui sont pas ceux qu'il faudrait avoir. La question, c'est de se dire, ben, comment on pourrait aider ces personnes-là à comprendre où elles mettent les pieds. Voilà, donc, c'est ben, qu'on soit office du tourisme, hébergeur, parc du Vercors ou une commune, c'est comment on peut aider à diffuser des messages jusqu'au cœur d'une cabane. Comment au sein d'une cabane, on peut prendre la parole pour dire voilà qu'on prend soin de ce lieu et de l'environnement naturel qui est autour. Ça, ce sont des vrais sujets, je pense, qui sont là. Et c'est simplement pour du mieux vivre ensemble. Voilà. Et il faut accepter aussi que des personnes voilà, n'aient pas le réflexe de ces lieux qu'elles ne connaissent pas. Et peut-être que certains grands médias ou certaines grandes campagnes de communication, des fois, ne nous aident pas non plus en faisant passer la montagne, d'une manière générale, comme un terrain de jeu. C'est pas un terrain de jeu, là. C'est un endroit où des habitants vivent à l'année. Ils jouent pas, ils pratiquent des choses dans ce lieu-là. Et c'est peut-être, voilà, donc on a vraiment une responsabilité collective pour faire passer les bons messages.
Et là, vous avez parlé juste avant d'autres massifs qui se trouvent à proximité, Belledonne, la Chartreuse, où on peut aussi trouver des abris non gardés. Au niveau du massif du Vercors, est-ce qu'on a beaucoup de cabanes? Est-ce que le maillage il est important? Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent là-dessus?
Alors, l'étude de 2017, elle avait inventorié environ une cinquantaine de cabanes. On sait qu'il y en a plus. Et après, il y a des disparités dans ces cabanes. Il y en a qui sont presque des ruines, il y en a qui sont privées, dans lesquelles on ne peut pas accéder. Et c'est bien qu'il y en ait aussi, parce que il faut que ça existe. Voilà, donc on sait voilà, qu'on a devant nous un long chemin encore. Mais c'est important parce que si on veut que la qualité d'accueil dans le sens de la randonnée, de se déplacer en tourisme équestre, en randonnée à pied, en VTT, de bénéficier de structures d'accueil, parce que pour moi c'est vraiment des structures d'accueil, même si ça peut être des abris simplement, c'est une manière d'accueillir dans l'espace naturel, de s'abriter un moment, de passer une nuit, et donc il faut que ce patrimoine voilà, perdure vraiment.
Et donc, j'en reviens à ce projet donc, de cabane et abri que vous portez en tant que parc. Donc, c'est le deuxième volet d'expérimentation que vous engagez. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, peut-être brièvement, d'où il vient, ce projet cabane? Donc, de prendre soin, de faire un peu, voilà, vous me disiez tout à l'heure, de culture commune, d'essayer de faire un maillage, de faire du lien entre les communes, de faire du lien entre les propriétaires, les habitants, par ces cabanes-là, par l'attachement qu'on a à ces cabanes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça et quels sont les objectifs du coup de l'année à venir pour ce comité qui s'en occupe?
Oui, tout à fait. Alors, il faut dire qu'après l'étude qui a été menée en 2017, eh ben, voilà, l'étude elle a dit ben, vous avez beaucoup de patrimoine, c'est un patrimoine identitaire, attention, il y a des abris et des cabanes qui commencent à s'abîmer. Ça va avoir une incidence sur votre offre, voilà. Et puis, il y a des cabanes qui ont des vrais enjeux parce qu'elles portent des histoires, elles sont dans des lieux assez étonnants et ça serait dommage, en tout cas, de perdre ce patrimoine. Donc, à la suite de cette étude, eh ben, le parc a proposé, en tout cas, à Nîmes, un groupe de travail dédié aux cabanes qui réunit les offices du tourisme, les communes, les communautés de communes, l'ONF, les deux départements par exemple, et des associations qui ont envie de s'investir. Et ce groupe de travail, il s'est dit, eh ben, on va se donner une feuille de route. Alors, cette feuille de route, elle disait de trouver une manière de faire qui nous ressemble, un peu comme nos anciens qui ont construit les cabanes l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur des valeurs très simples de solidarité, de simplicité, de sobriété. Donc essayer de retrouver cette manière de faire là, de retrouver du collectif et de faire ça ensemble. Et donc chaque année, ce comité, ce groupe de travail se réunit, il identifie des projets qui pensent matures. Et à ce moment-là, le parc accompagne ses porteurs de projets aussi, avec l'aide d'un architecte qu'on met à disposition pour aider à la réflexion, voir sur une cabane, comprendre d'où elle vient, comment elle a été fabriquée, l'état où elle en est, finalement comment il faudrait intervenir dessus pour lui redonner de la pérennité un petit peu, qualifier ses conditions d'accueil, et puis aussi jeter le regard en dehors de la cabane. Est-ce qu'il y a ici des histoires de cohabitation avec le pastoralisme, avec les travaux forestiers? Est-ce qu'on a une très grosse fréquentation sur cette cabane parce que c'est un sentier très fréquenté? Comment la cabane, elle peut absorber cette fréquentation ou pas? Donc on voit qu'aussi, rien que réfléchir à ces projets-là, c'est une manière aussi de réfléchir au territoire. Par exemple, la cabane de Côte-Chèvre sur la commune de Châtillon-en-Dyois, le projet a été pensé pour être une alternative, un itinéraire de délestage du vallon de Combeau pour rentrer dans la réserve naturelle du Haut-Plateau, en montrant qu'il y a un point d'intérêt ailleurs, plutôt que tout ça est dans le vallon de Combeau et être très nombreux là-bas, juste à côté, finalement, il y a quelque chose d'extrêmement beau qui a autant de qualité. Voilà. On a vu que dans ces projets-là, on a pu mener, sur les 4 années, suivre 11 porteurs de projets, donc dans le Trièves, dans le Diois, à la Chapelle en Vercors, dans les Coulmes, à Lens-en-Vercors, à Autran-Méaudre et dans la Gervanne, du coup. On était content de couvrir déjà tout le territoire, de voir que sur l'ensemble du Vercors, des porteurs de projets disaient « Nous, on a envie de travailler là-dessus. » Et finalement, on a bien vu que on rentrait par la logique des travaux, très souvent, et c'est normal. Et puis dans la réflexion, finalement, on arrivait à ouvrir les échanges et à se dire, attends, il y a peut-être d'autres choses aussi à réfléchir. Les travaux, c'est bien et c'est important de les faire, mais il faut qu'on réfléchisse aussi à s'il y a d'autres choses autour de la cabane. Je pense notamment à 2 endroits où, à proximité de la cabane, il y a eu vraiment la question d'aller renettoyer des sources qui s'étaient refermées, sur la commune de Lens-en-Vercors. C'est un chantier des jeunes de la commune qui, un été, pendant 2 journées, a pris les outils, a été encadré, a remis la source en état et l'a protégée avec des palisses en bois parce que, en fait, les troupeaux étaient venus piétiner la source et l'abîmer. Ces jeunes-là, ils ont été super contents de faire ça. Ils étaient très heureux, c'était très concret pour eux. Donc, on voit qu'il y a, qu'on dit qu'un village se réapproprie son territoire, ça peut se faire sur des choses toutes bêtes et de réfléchir aux cabanes, souvent, c'est la manière de le faire. Donc voilà, on a pu avoir ces 10-11 projets, et puis on est arrivé en fin de mission avec l'architecte, on a fait un bilan avec tous les porteurs de projets, et le retour qu'ils nous ont dit, déjà, d'avoir une méthode partagée d'approcher ces projets-là, c'est important, plutôt que les faire chacun chez soi de notre côté, parce qu'on a découvert qu'en discutant avec une autre commune, en voyant comment ils avaient fait, ça nous a interpellés chez nous pour mener des travaux ou pour mener la réflexion, par exemple. Et on a bien vu que là, le sens du collectif, que ce soit dans la manière de ce groupe de travail de réfléchir ou à l'échelle locale dans les projets, le sens du collectif, il est très important. Donc ils ont vraiment plébiscité cette approche-là et le fait de se donner ce cadre partagé, de partager des valeurs, on n'est pas là, entre guillemets, on n'est pas là dans un projet où un architecte vient, dit il faut faire ça, ça coûte tant, je mets des entreprises et c'est fini. On voulait vraiment aller sur une autre approche qui est on fait ensemble, voire on sait qu'on a des compétences au sein d'une commune, dans un village, avec des gens qui ont des doigts en or, qui savent faire des choses, des jeunes qui savent faire beaucoup de choses aussi, et pourquoi pas, sur certains points de ce projet, que ce soit le village qui fasse les travaux, qui prennent les choses en main, et que sur d'autres choses, on se sent moins compétent. Donc il y a dans le bilan, il y a eu ça, il y a eu notamment l'idée que il y a des projets en fait qui ont eu du sens à Lens-en-Vercors. Le cœur du recteur, ça a été le conseil municipal des jeunes. Et ça change beaucoup de choses, parce que ça veut dire qu'il y a eu des enjeux de transmission, Les enfants, ils ont appris à cuber du bois, à choisir des arbres et les marquer pour que le bûcheron vienne récupérer, voilà, identifier les 20 mètres cubes de mélèze dont ils avaient besoin. Je pense que les enfants qui ont fait ça, c'est des souvenirs pour la vie et qui vont avoir le souci de ce que devient la cabane au fil des années parce qu'elle fait partie aussi de leur projet. À Côte-Chèvre, avec la commune de Châtillon-en-Dyois, on avait eu qu'un moment très fort. Le scieur de la commune a identifié les arbres, les a coupés, a débité, mais à un moment, il fallait usiner les pièces. Eh bien, c'est l'ESAT de la commune d'à côté, un établissement spécialisé d'aide par le travail, qui avait un atelier bois, qui s'est occupé de ça, qui a usiné les pièces, l'a fait très bien, qui a fait un montage à blanc dans l'atelier de la cabane, voilà, pour montrer, voilà. Et c'est ces partenariats-là qui sont importants, parce qu'on voit qu'on a des compétences souvent à proximité de chez soi, et puis c'est trouver la manière dont on va le faire ensemble. Et en tout cas, le groupe de travail, il a vraiment dit, ça nous a changé la perception de cette manière de faire, et en tout cas, il fallait accepter de s'ouvrir. Le parc et l'architecte, nous, on vient simplement aider, mettre du collectif, favoriser le temps collectif, et on essaie vraiment de les aider à faire les meilleurs choix possibles, jusque dans la mise en œuvre, opérationnelle. Voilà.
Ouais, donc ça replace au centre cette question de bien commun, de culture commune et de faire ensemble, quoi, de discuter ensemble, de se retrouver, comme on peut aussi se retrouver dans une cabane. Là, on se retrouve autour d'une table pour en prendre soin.
Et ouais, c'est ça. Et en fait, voilà. Et en fait, pour finir sur le bilan, en fait, les gens, ils ont dit, mais on veut continuer cette expérimentation-là. Et il y a déjà des projets qui sortaient. Moi, j'aimerais bien faire travailler sur telle cabane et tout. Et on s'est dit, OK, on va prendre le temps de réfléchir parce que l'idée, ça serait, voilà, l'expérimentation, la première qu'on a menée, bah, en fait, dans chaque projet, on a eu des choses très chouettes qui se sont passées dans chacun et des choses différentes. Et au niveau du parc, on s'est dit, bah, ça serait dommage de perdre ça. Donc il faut trouver une manière de relancer, voilà, une deuxième génération de projets. On a eu la chance, voilà, de pouvoir avoir l'écoute de la région aussi, de pouvoir prendre en charge le rôle de l'architecte pour relancer cette deuxième génération. Et aujourd'hui même, cet après-midi, on était 25 à 30 ici dans cette salle, avec des communes, du monde associatif, des gens de l'ONF, des gens du parc, l'architecte qui était là, pour réfléchir, se dire comment on repart, sur quelle méthode de travail, on a expérimenté des choses avant. On va axer le projet sur deux points, déjà des valeurs, sobriété, simplicité, solidarité. On revient un petit peu à ce qui a fait que ces cabanes sont apparues. Et même une personne nous a dit amitié. Eh ben, elles viennent en tout cas, elles soient un petit peu la matrice de tous les aspects du projet. Et puis on s'est dit, par rapport au retour d'expérience qu'on a eu, que ça serait bien qu'avant de lancer l'arrivée de l'architecte, que chaque porteur de projet, chaque collectif, ait eu le temps de mûrir, de faire maturer son projet. Et ce qui est vachement marrant, c'est que le collectif fait bouger le projet et le projet fait bouger le collectif. C'est des choses qu'on a vécues et qui sont vachement marrantes. Donc déjà, c'est d'avoir un collectif, c'est de se doter de cet état d'esprit, c'est-à-dire comment on fait vivre ces trois systèmes de valeurs. On a pris conscience dans le bilan que le premier acteur de ces projets, c'était la nature, parce que les cabanes, elles étaient posées dans la nature et elles étaient un marqueur du paysage et en fait, elles fonctionnent bien avec le paysage. Donc on s'est dit là comment on fait pour garder cet équilibre-là, cette intégration-là, et jusque dans les travaux qu'on va faire, la manière de les mener, c'est-à-dire de venir avec des matériaux, comment on pourra faire pour être le moins impactant possible. Par exemple, ça fait partie aussi de la réflexion, de la maturité de la réflexion. Également, l'idée de se dire que il y a la question des histoires qui sont liées à ces cabanes. Dans les projets, tous les projets qu'on a menés, il y a eu des histoires parfois qui étaient extrêmement touchantes, très très touchantes. Et si elles ressortent pas, ces histoires, elles nous éclairent pas sur le projet qu'on a. Et si on connaît pas ces histoires, je serais tenté de dire dans le projet qu'on mène, on passe peut-être à côté de quelque chose. Voilà. Et ces histoires, elles peuvent devenir le support aussi de recherche dans la commune, de retrouver des objets. Donc le projet, il doit aussi prendre en compte les histoires. Pour nous, la question de aussi de l'environnement naturel d'une manière générale, beaucoup de communes du Vercors se sont lancées dans l'atlas de la biodiversité communale. Et on pense que cet outil-là, des fois, c'est une manière d'éclairer là où sont des cabanes, de dire à côté de cette cabane, il y a ça et ça qui a une valeur incroyable. Il faut juste le savoir et comment on vient l'intégrer finalement, comment à partir de la cabane on peut savoir qu'il y a ça. Voilà. Donc d'une manière générale, l'environnement naturel, il faut aussi qu'il soit un des marqueurs, un des critères du projet. Et on n'a pas tout de suite toutes les réponses, mais on sait qu'il doit devenir un des facteurs du projet. Donc dans la manière, ne serait-ce que d'amener des matériaux sur le site et de faire les travaux ensemble, pareil, comment on fait pour être le moins impactant possible? C'est une question qui compte. Et puis dans ces travaux-là aussi, la juste mesure, c'est quoi? C'est pas un hôtel qu'on fait, c'est pas un refuge, c'est une cabane du Vercors. La cabane du Vercors a une identité Vercors, une forme de simplicité, de frugalité, du fait que ça marche parce que c'est simple, parce que c'est une grande fonctionnalité. On hérite un peu l'observation de nos anciens qui faisaient des choses qui fonctionnaient, qui étaient très simples, quoi. Et puis on s'est dit quelque chose, enfin pour finir, dans les prérequis. Nous, ce qui nous a manqué dans la première expérimentation, c'est qu'on avait peu de traces de ce qui s'est passé dans ces projets. Et là, ce qu'on a proposé aux futurs porteurs de projets, c'est que, alors ils prennent le format qu'ils veulent. Ça peut être des enfants qui font des collages, c'est des jeunes qui ont l'habitude de filmer, voilà. En tout cas, on voulait qu'il y ait un récit de tout le projet. À partir du moment où ils se mettent en route, ils écrivent, ils filment, ils enregistrent, ils dessinent, s'il y a des enfants, voilà. Mais que du début à la fin du projet, à la fin, on ait un objet. C'est simplement de garder l'histoire, garder la trace. Et donc, c'est maintenir en vie ces cabanes aussi. Et c'est aussi avoir un regard technique, la mémoire technique de comment on s'y est pris. Et la mémoire sociale, c'est qui était là, qui est intervenu, comment ça s'est fait. Donc, voilà un peu le cahier des charges qui s'est fixé. Et là, on a déjà 3 envies de projet. Donc, au niveau de la forêt des Coulmes, la Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté, la commune de Presles, Rancurel, Malval, Saint-Pierre-de-Chérène, qui sont à la support des Coulmes, il y a eu malheureusement l'incendie de la cabane de Serre du Sâtre en 2021, je crois, ou 22. Et il y a l'envie de repartir sur quelque chose. Donc c'est fabuleux parce que là on part d'une page blanche et il va falloir déjà le groupe, laisser le groupe dans les coulmes maturer, commencer à faire sa propre réflexion, et puis quand ils nous diront qu'ils sont prêts, on va venir et on va réfléchir avec eux. Il y a également la Chapelle en Vercors qui nous a sollicité sur une cabane qui est contre la réserve, à la cabane de Prévalet. Alors une cabane qui est étonnante aussi, parce qu'elle a une des rares cabanes avec une citerne, donc. Ça va être une super, super approche, en tout cas patrimoniale déjà. On a eu également une réflexion de la commune de Die pour la cabane des trois frères. C'est potentiellement une idée. On laisse les gens de la commune là-bas se retourner, on va voir ce qu'il en est. Et puis également sur Autran-Méaudran-Vercors, l'association Cabane 44 qui veut retravailler sur l'ancienne cabane des résistants de la Pérouse, sur l'espace naturel sensible de la Molière, qui est une ruine. Donc ils aimeraient rebâtir cette cabane qui est dans un lieu très particulier, au sein d'un espace naturel sensible. Et c'est une cabane qui historiquement est très particulière, puisqu'il y a eu énormément de cabanes qui ont servi à protéger et cacher les résistants. Et là, c'était une cabane qui servait à apprendre le combat militaire. Donc elle a ce côté-là, ce double intérêt d'être au sein d'un espace naturel protégé qui est très qualitatif et en même temps d'être le porteuse d'une histoire qui est juste incroyable, du coup. Donc on a, voilà, pour l'instant, ces projets qui sont là. Et le groupe a redit son envie de se recreuser la tête pour dire, par rapport à ces nouveaux usagers de la montagne qui sont là. Réfléchissons à des manières de parler de bonnes pratiques au sein de ces cabanes. Voilà. Quand je suis dans la cabane, j'arrive dans la cabane, je pousse la porte. Comment je peux être informé utilement, voilà, sans avoir, on va dire, un langage réglementaire devant moi, parce que ce sont des lieux où on est là pour être bien, passer du temps. On peut faire simplement faire passer ces messages de solidarité, de prendre bien soin de ce lieu commun qui est là, qui nous est offert. Donc, c'est-à-dire que ça, la responsabilité, elle incombe à tout le monde, du coup. Voilà.
Il y a beaucoup d'histoires, en fait, que moi je découvre dans cette conversation, toutes ces histoires qui tournent autour des cabanes. Et c'est vrai que la question de la trace et de l'accessibilité à ces histoires, à ces projets en cours, elle est hyper intéressante parce que c'est vraiment la mise en partage aussi de ces connaissances-là. Est-ce qu'il y a quelque part sur le site ou peut-être dans les infolettres du Vercors, on aura des informations sur l'évolution des travaux, si on est habitant, habitante de la chapelle, qu'on veut suivre le projet? Est-ce qu'il y a une manière de s'impliquer?
Oui, alors effectivement, l'infolettre du parc permet de se tenir au courant. Donc on dira bien quel projet part. Et après, un habitant d'une commune, voilà, à la chapelle en Vercors, par exemple, toute personne qui a envie de se peut le contacter, son élu délégué au parc, voilà, au sein de la commune, pour l'aider, le dire « j'aimerais bien participer, comment vous faites, comment ça se passe ?» Voilà. Donc on aura ces temps-là. Mais il y a aussi je pense à Cabane 44, à l'association Cabane 44 au Tremé-Haute, qui a quasiment fait un site internet où ils montrent où ils en sont, ce qu'ils ont fait, sur quoi ils travaillent, et ils travaillent sur les cabanes et pas que. Ils ont ce regard aussi sur la notion du patrimoine et l'identité du village. Ils ont fait un gros travail sur les Jeux de 68, et notamment sur le premier tremplin de Souaski qui existait avant les Jeux de 68, et dans un autre lieu que la colline du Claret, par exemple. Donc on a aussi ces portes d'entrée-là. Mais c'est vrai que vous avez raison, il faudrait qu'on ait un accès lisible à toutes ces histoires-là.
Bah, Radio Royan en Vercors se fera le grand plaisir de documenter l'évolution des travaux puisque, comme vous le savez, on couvre le Vercors Sud en particulier, de temps en temps le Vercors Nord également.
Eh bien, exactement. Et en tout cas, il y aurait deux projets sur le territoire de la Comcom du Royan-Vercors. Ça serait la chapelle en Vercors-Prévalet. Et alors, il y a la situation particulière de la cabane des Trois Frères, c'est-à-dire c'est du communal de Die sur le communal de Vassieux. Mais je serais tenté de dire c'est pas grave, ça arrive souvent. C'est l'héritage de l'histoire qui veut ça. Et voilà, c'est intéressant aussi de voir que sur Vassieux, il y a justement ce partage Die-Vassieux, qui est une raison historique aussi. Et je trouve que votre radio, en tout cas, elle peut être un super relais du suivi de ces projets.
Eh ben, on se fera un grand plaisir et on souhaite du coup encore beaucoup d'attachement et de soins à ces cabanes-là de par tout le monde.
Oui. Ben, c'est exactement ça. Et s'il y avait une chose que je pourrais rajouter, c'est qu'en fait, cet après-midi, on s'est dit, mais finalement, on peut faire le projet qu'on veut, il y a une richesse phénoménale dedans. Et en fait, c'est des projets qui demandent tellement de regards croisés, voilà, que eh ben c'est des vrais laboratoires. On peut avoir les enfants de l'école qui peuvent participer, et les anciens qui ont la mémoire, on retrouve des objets, on fait des choses ensemble différentes, au moins une fois qu'on fasse les choses différemment. Voilà, au moins une fois, on se donne la liberté de faire les choses différemment. Et c'est, quand je dis un laboratoire, c'est aussi ça. On a tendance à avoir une société où on fragmente beaucoup les choses, on fait dans son coin, ces notions de solidarité, du faire ensemble, et encore plus sur des lieux communs, il faut absolument renverser une fois, au moins sur un projet, ben, retrouver ses vertus un petit peu du collectif, puis bah, accepter que finalement l'autre il n'a pas la même idée que moi, mais finalement on a trouvé une solution ensemble. C'est ça aussi les vertus de refaire du lien et du lien dans le village, je pense.
Ouais, s'occuper de ce bien commun ensemble et le faire perdurer encore plus longtemps. Et d'ailleurs, je me demandais, donc les cabanes et les abris non gardés du Vercors, donc vous disiez qu'il y en a une cinquantaine qui maillent un peu le territoire. On les retrouve évidemment sur les cartes IGN papier. Il y a les petits logos, petites cabanes roses. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, peut-être sur le site internet du parc du Vercors? Il doit y avoir des guides aussi, des topo-guides du Vercors?
Alors, on les retrouve sur les cartes-guides du Vercors, tout à fait. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est cet après-midi, on s'était dit d'avoir une cartographie spécifique de ces cabanes. Ça serait aussi une plus-value, ça nous permettrait de suivre un petit peu les cabanes qui se sont embellies, qui ont été bichonnées, comme nous a dit une association qui était là cet après-midi. Et voilà, la question d'une cartographie, elle va être à venir. Et le site Vercors Rando aussi, qui est utilisé mis en place par le parc, donne beaucoup d'éclairage à la fois sur la présence de ces cabanes et surtout tout le côté patrimonial aussi historique qui peut y être lié à ce moment-là. Voilà.
Et il y a aussi le site refuge.info qui répertorie aussi la présence de sources ou pas et la quantité d'eau qui est présente, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on vient sur le Vercors, c'est qu'il n'y a pas forcément d'eau tout le temps, en tout cas l'été.
Oui, c'est ça. Alors, refuge.info est vraiment une source, une base de données qui est extraordinaire. En plus, il y a l'avantage d'être un forum, c'est-à-dire en temps réel. Voilà. Et on a beaucoup insisté cet après-midi, je pense, sur la complémentarité des approches, ce que propose le parc. C'est pas un alpha et un oméga, hein, c'est une manière de travailler. Il faut pas oublier que des gens comme Refuge Info ont un rôle à jouer aussi, mais aussi une association qui s'appelle l'association Tous à Poil, qui est un nom très amusant. Poil, c'est un poil qui chauffe, qui mène des projets de restauration de cabanes. C'est eux qui ont le terme de bichonnage, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc en fait, on est beaucoup à réfléchir, à penser à ces cabanes et à avoir envie qu'elles vivent. Et c'est bien, en fait, on a montré cet après-midi qu'il faut qu'on soit en lien beaucoup plus souvent, qu'il y ait des passerelles qui se fassent entre ces méthodes de travail-là, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Voilà.
Eh ben, on l'espère, en tout cas, on ressent bien la convivialité et la joie aussi de mener tous ces projets. J'imagine que ça doit être assez satisfaisant aussi pour vous au Parc du Vercors. Merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces précisions et ces histoires.
Merci à vous et j'espère que vous allez suivre aussi avec nous ces projets. Très bien.
Merci.